pensée du titre, c'est penser sur la marche, c'est marcher une spiritualité.
Une spiritualité, point d'interrogation. Alors, je dirais que les plus courageux d'entre vous se sont mis en route ce matin par la marche. Et je vous propose que maintenant, nous nous mettions ensemble en route par une réflexion commune. Et la réflexion, ça commence toujours par l'étonnement. Hein, c'est ce que disait déjà Aristote au début de la métaphysique. Et à cet effet, le titre auquel je m'oriente, et qui rassemble marche, qui associe marche et spiritualité, c'est un titre, je dirais, qui porte à la réflexion, parce qu'il y a quelque chose d'étonnant dans ce titre. Ce qui est étonnant, c'est d'associer une activité profane, comme la marche, avec l'idée de la spiritualité. Pèlerinage et spiritualité, oui, mais marche et spiritualité, point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que le pèlerinage, c'est une activité religieuse, et nous lions d'emblée spiritualité et religion, surtout si nous sommes les pratiquants de notre religion. L'espace de la spiritualité, pour nous, c'est l'espace de la religieuse. Et d'aller en pèlerinage à Rome, à Jérusalem, à Lourdes, oui. Faire les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, à Saint-Hugues de Bivier, oui. Vous voyez, je fais de l'écuménisme. S'initier à la spiritualité dominicaine à Chalais, à travers la rencontre des sœurs, par la pratique des offices, le chant des psaumes, les lectures bibliques, oui, bien sûr. Voilà. Mais marcher, se déplacer à pied, que ce soit par plaisir ou par nécessité, comment y associer le spirituel, hein, pour le moins, ça ne va pas de soi. Alors la Bible, je parlais des lectures bibliques, du chant des psaumes à Chalais. La Bible, justement, si nous regardons la Bible, qui est quand même le corpus de référence pour notre foi chrétienne, dans la Bible, il est question beaucoup de spiritualité, bien sûr. Il n'est même question essentiellement que de cela, que de spiritualité. Mais il est très peu question de religion dans la Bible. Je ne sais pas si vous en avez déjà pris conscience. Dans la Bible, la religion, avec ses lieux, le temple, ses rites qui sont les sacrifices, les observances, ces hommes qui sont les prêtres, les pasteurs, lorsqu'on en parle le plus souvent, c'est pour la critiquer, la religion, comme corrompue, hypocrite et surtout, je dirais, usurpatrice du spirituel. Qu'on pense ici aux oracles vigoureux des prophètes d'Israël contre les pasteurs et aux violentes controverses de Jésus avec les scribes, les pharisiens, les prêtres. Le spirituel, pour la Bible, il a son lieu dans la vie des hommes et des femmes. Et il tient à ce qui libère, ce qui relève, ce qui sauve. Pour la Bible, le spirituel, c'est ce que le Saint-Esprit peut opérer dans une vie. Et ce Saint-Esprit, il est comme le vent, c'est une métaphore du Saint-Esprit qui est très biblique, comme le vent dont nul ne sait d'où il vient ni où il va, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit franchit les frontières des nations, des religions, des cultures. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, sait qu'il a répondu à l'appel d'un cœur qui le désire. Pour qu'il vienne, le Saint-Esprit, il faut le désirer. Et là, il se reconnaît, le Saint-Esprit, à son action sanctifiante. Et parmi les nombreuses listes bibliques des bienfaits de l'Esprit, là où il agit, il y a celle de la lettre aux Galates, chapitre 5, puis de l'amour, en grec agapé, la joie, la paix, la patience, la bonté, la serviabilité, la fidélité, en grec c'est pistis, la douceur, la tempérance. Alors pistis, la fidélité, on pourrait traduire aussi la foi. Et la foi, au sens biblique du terme, toujours dans le sens de cette réduction du biblique, cette réduction, de cette reconduction du religieux à la condition humaine, dans ce qu'elle peut avoir de sainte, d'être habité, vivifié par le Saint-Esprit, bien avant que la foi essaie de se dire en mots, dans une confession de foi. La foi, c'est une attitude dans la vie. Hein? La foi, c'est une attitude dans la vie, c'est une manière de s'engager, d'agir, comme l'a dit Jésus, c'est une manière d'agir qui peut déplacer les montagnes, a dit Jésus. C'est une attitude dans la vie, la foi, qui consiste à affronter l'impossible à vue humaine. Ça semble impossible à affronter, et pourtant on s'y engage quand même, et ça passe. Et je pense ici à cette scène de l'évangile de Luc, qui est très symbolique de la foi, en ce sens humain, radical. C'est, souvenez-vous, lorsque des hommes portent à Jésus un paralysé sur un brancard, la maison où se tient Jésus est bloquée par la foule, eh bien, qu'à cela ne tienne, ils vont monter sur le toit, ils vont défaire la couverture, faire descendre le brancard. Et saint Luc, l'évangéliste, prend bien soin de nous dire à ce moment-là que Jésus vit leur foi. Vous voyez ? La foi, ça se voit, et comment ? Parce que la foi, ça fait l'impossible à vue humaine. La foi, elle avance là où à vue du monde, c'est bloqué, ça ne passe pas. Ces hommes, eux, ils passent là où les gens raisonnables se seraient arrêtés. Et cet équipé, eh bien, ces hommes, ils l'engagent en solidarité avec un des leurs qui ne peut plus marcher. Et avec la ferme espérance qu'il pourra marcher à nouveau. Et voilà la marche qui entre en scène d'une manière typiquement biblique. On marche beaucoup dans la pensée biblique. Mais pas pour se promener. Pas pour se promener, c'est toujours dans un désir de salut qu'on marche. Un mouvement vers le salut. Parce que dans l'expérience biblique, le présent, il est perçu comme très négatif. Le présent, il est inhabitable. Le monde a perdu sa lumière originelle. Pourquoi ? Du fait de la violence des hommes. Le monde, il est enténébré par le mal. La situation présente, elle est marquée par l'injustice, par l'oppression. C'est la fournaise de fer de l'Égypte. C'est l'emprisonnement en terre d'exil à Babylone. Et en Luc 5, eh bien, c'est la prison du handicap. On marche en peuple, en communauté, en solidarité, vers la terre promise, qui sera une terre habitable, où règne la justice, vers des cieux nouveaux et une terre nouvelle, selon la grandiose vision de l'Apocalypse de saint Jean. Vous voyez, d'accord ? La pensée biblique situe la spiritualité dans l'existence. Et la représentation biblique de ce qu'on appelle la vie bonne, vous voyez, c'est le thème de l'éthique en philosophie, qu'est-ce que c'est que la vie bonne ? Eh bien, la représentation biblique de la vie bonne, ça n'est pas d'être de cette culture, de ce pays, de cette identité bien définie, d'y être bien situé comme enraciné, mais la représentation de la vie bonne, c'est de vivre en exode. C'est le thème de l'exode. La représentation de la vie bonne, c'est de vivre en exode, en chemin. Alors bien sûr, vous voyez qu'en tout cela, il y va d'un sens figuré de la marche. C'est la marche dans l'existence. C'est la marche non pas considérée en elle-même, je dirais, vous voyez, comme performance pédestre. Mais la marche, oui, comme un symbole de l'existence. Et du coup, vous voyez que l'étonnement persiste. Que je disais en ouverture, l'étonnement persiste et se renforce même. Nos marches de loisirs, nos marches au sens propre du terme, nos marches pédestres, profanes, de détente, de loisirs, elles sont dotées d'un potentiel spirituel. Oui, c'est ça la question. Pas que je perde de vue la question. Alors, je dirais qu'il faut se méfier des considérations trop générales, mais je serais tenté de dire, qu'aucune activité humaine n'a de soi un sens spirituel. Peut-être même pas la prière. Oui, ça pose une grosse question. Peut-être même pas la prière. L'activité est une fonction du vivre humain en collectivité. On fait la cuisine pour se nourrir, et pour nourrir ceux dont on a la charge. On pratique la marche pour se déplacer, tout simplement, ou bien pour maintenir son équilibre physique, psychique. On travaille pour vivre économiquement et pour trouver sa place dans la société. Mais tous ces actes qui composent concrètement notre vie dans ces diverses dimensions et personnelles et sociales, je pense que tous ces actes, ils peuvent s'ouvrir. Ils peuvent s'ouvrir à une dimension spirituelle s'ils s'accompagnent d'une pensée qui fait d'eux le signe ou le symbole des enjeux radicaux de vie de l'existence. Hein, il faut que par décision, ou on pourrait dire par interprétation, la chose, l'acte, marcher, faire la cuisine, travailler, devienne signe, symbole de la vie qui vient de Dieu. Ceci étant dit, je pense néanmoins qu'il y a des activités qui présentent comme une prédisposition à l'investissement symbolique du spirituel. Hein, il y a des activités qui présentent une sorte de prédisposition à l'investissement symbolique du spirituel, et c'est le cas par excellence de la marche. À preuve, l'omniprésence du symbole de la marche dans la pensée biblique. La marche, plus que la cuisine, je dirais. Alors, à quoi tient cette prédisposition de la marche au spirituel? Je disais à l'instant que la pensée biblique nous introduit au spirituel, non pas comme à l'imaginaire d'une autre vie, dont nous ne pourrions d'ailleurs avoir qu'une très pâle idée, parce qu'une autre vie, nous ne savons pas ce que c'est, nous ne connaissons que notre vie. Mais donc la pensée biblique nous introduit au spirituel comme à l'approfondissement radical de ce qui nous fait humains. Or, la marche est dotée justement d'un potentiel important pour symboliser l'existence humaine. La marche, c'est une activité qui a un potentiel de symbolisation de l'existence humaine, et là est sa force. Et je dirais que ce potentiel de symbolisation de l'humain, il est d'autant plus parce que nous vivons un âge de l'histoire de notre Occident. Donc c'est quoi l'Occident? C'est ce mouvement, c'est cette civilisation qui se définit par le développement des sciences et des techniques. On peut définir comme ça l'Occident. Nous sommes à un âge de notre Occident où nous sommes en train de perdre le sens de ce qui fait notre humanité. Nous sommes à un âge de l'Occident où nous sommes en train de perdre le sens de ce qui fait notre humanité. Alors très brièvement, qu'est-ce qui permet de dire ça? Quels seraient les symptômes de cette perte? Je pense que nous a pas échappé que dans notre culture, fortement médiatique, où les sciences et les techniques donnent le ton de ce qui a autorité, eh bien les frontières de l'humain sont en train de devenir floues. Les frontières de l'humain sont en train de devenir floues, et elles tendent à s'effacer peu à peu du côté du vivant et du côté de la machine. On entend de partout, depuis des décennies, ça fait la une des magazines régulièrement, que l'homme, c'est un vivant pas si différent qu'un autre. Tout ce qu'on trouve chez nous, on le trouve chez les bonobos, les dauphins, etc. Mais ce qui est plus nouveau, et qui marque ce début du XXIe siècle, c'est l'effacement de la frontière de l'homme et de la machine. On nous dit que notre intelligence pourrait être bientôt non seulement renforcée, mais elle est déjà par la technique, ça fait longtemps qu'on a des ordinateurs, des calculateurs, etc., Mais on nous dit, ça on va beaucoup plus loin, que notre intelligence, elle pourrait être remplacée par l'intelligence artificielle. On nous annonce la fin de l'homme version 1, on entend ça, hein, dans les médias. Celui, c'est qui le version 1 ? C'est celui qui existe dans son corps de finitude. Hein, c'est que vous allez dire quoi, la finitude ? C'est un mot qui est philosophique, mais vous entendez le mot fin. Le corps de finitude, c'est le corps qui est vulnérable, qui se fatigue, qui tombe malade et qui va mourir. Ben, ce corps-là, c'est l'horreur pour l'Occident. Il faut s'en débarrasser. Et on est à un âge de notre histoire où des techniciens nous disent, ben, ça, qui est un vieux désir occidental, ça, nous, on va le faire. Les technoprophètes de ce qu'on appelle le transhumanisme ou le post-humanisme nous annoncent que, en particulier, ben c'est fantastique, hein, par le fait d'un corps qui sera réparable à l'infini, on pourra changer les pièces, ouais, bon, comme une machine, voire même, s'ils vont beaucoup plus loin, qu'il est possible d'envisager sérieusement une vie de l'esprit, sur des corps de substitution, en matériaux incorruptibles. Je voudrais citer ici un des cadres dirigeants de Google, donc ça ne doit pas être un rigolo normalement, qui s'appelle Ray Kurzweil. Et bon, son discours, il se présente comme tout à fait sérieux, mais je dirais que c'est de la pure utopie. Enfin, pour moi, c'est de la pure utopie, et je ne suis pas le seul à le dire, vous avez des gens très sérieux, et des grands scientifiques qui le disent, qui n'entrent pas du tout dans ce type de discours. C'est un discours beaucoup plus utopique, idéologique. Je le cite, il nous dit ceci, c'était en 2012. Dans 20 ans, à peu près, une machine, une intelligence artificielle pourra égaler le cerveau humain, puis le dépasser. Nos cerveaux deviendront en grande partie non biologiques. Nous deviendrons donc en partie des machines. On pourra alors stopper le vieillissement et vivre indéfiniment. Vous voyez, c'est ça la question. C'est une dimension religieuse dans ces utopies. C'est pour ça qu'on les appelle des techno-prophètes. Ce sont les religieux d'une religion... de la science, enfin, qui n'est pas si scientifique que ça. Bon. Vous voyez que sous-jacent à toutes ces représentations d'une vie libérée du corps de finitude, parce que c'est ce dont il faut s'affranchir, et ça envahit la culture, il y a l'idée que notre corps vulnérable et mortel, c'est ce qui empêche, ce qui entrave l'esprit humain, qui empêche l'esprit humain de prendre son envol, enfin. Or, je dirais, j'en viens à l'expérience de la marche, je pense que quiconque a une expérience sensible de la marche, qui est attentive à ces enjeux de vie de la marche, c'est l'absurdité de ces représentations. Que le corps, non, notre corps de finitude, ça n'est pas ce qui fait obstacle à l'esprit, mais que l'esprit humain est au contraire un esprit corporé. Ah, ça, c'est un thème très biblique, hein, c'est le thème de l'incarnation. Hein, et l'esprit s'est fait chair. Il existe un lien originaire en l'homme entre notre mortalité et les plus hautes réalisations de l'esprit. Il se trouve, et c'est un fait d'existence, que le vivant qui va mourir, qui est l'homme, et qui le sait, celui qui existe vers sa fin, comme l'a dit un philosophe allemand, Martin Heidegger, hein, mort, son exister vers la mort, l'homme qui vit sa finitude, qui cherche à l'assumer autant que possible, c'est pas, bien sûr c'est pas facile d'assumer la finitude, c'est tout un art d'exister, voilà, qui accepte d'être vulnérable, de vieillir et d'aller vers la mort, eh bien il se trouve que ce vivant qui vit sa finitude est le vivant spirituel, doué de liberté et de créativité à l'infini. Ça, c'est le paradoxe de l'humain. Grand paradoxe de la condition humaine. Et là, je dirais que dans cette culture, dont j'ai fait un petit tableau, très bref, dans une culture qui est en train, je dirais, de marcher sur la tête, du fait de l'homme, hein, culture qui est en train de marcher sur la tête, la marche est une pratique qui pourrait peut-être remettre la pensée sur ses pieds. Vous voyez ? Dans un bon sens de l'humain, remettre la pensée sur ses pieds. Et par ailleurs, toutes ces utopies qui prétendent désormais à la réalisation technique, pourquoi elles sont dangereuses. Ce n'est pas simplement de la science-fiction, poétique, onirique. Non, ce qui est très dangereux, c'est que ce sont des techniciens qui disent ça, on va le faire, on est en train de l'expérimenter. Oui. Bon. Ça va faire du dégât. C'est pourquoi toutes ces utopies, eh bien, elles vont tirer aussi argument de l'accélération, parce que ça c'est un autre trait, je pense, de notre contexte contemporain. Parce qu'on en a pris conscience d'une façon, de manière assez récente. Ça vient de très loin, le mouvement occidental, il remonte aux Grecs, à l'Antiquité. Mais c'est un mouvement qui s'est développé d'abord très lentement, mais qui avance à une vitesse accélérée. Et là, on prend conscience aujourd'hui de ce phénomène de l'accélération. Eh bien, toutes ces utopies, elles tirent argument de l'accélération pour disqualifier le corps qui arrive de moins en moins à suivre. Vous voyez, les penseurs du transhumanisme disent, mais le corps, de toute façon, il ne peut plus suivre le mouvement de la technique. Pourquoi ? Parce qu'il est vulnérable, parce qu'il se fatigue, parce qu'il a besoin de sommeil, parce qu'il a besoin de repos, parce qu'il a besoin de loisirs. Et s'il n'a pas tout ça, c'est quoi ? C'est le burn-out. Le burn-out, c'est le syndrome de l'accélération. Je pense que ce n'est pas étonnant qu'on parle beaucoup de burn-out depuis une dizaine d'années, parce que c'est un phénomène qui est lié à ce processus de l'accélération. Alors je dirais que, dans ce contexte, faire le choix de la marche pour ses loisirs, en lieu de l'accélération, de la vitesse, de la glisse, ça qui est très très en phase avec la pensée occidentale, ce sont les sports où ça va très vite, de plus en plus vite. Donc, faire le choix de la marche pour ses loisirs, mais aussi comme mode de locomotion, en lieu et place des moyens rapides de déplacement, c'est, je dirais, de fait, une pratique de résistance à l'emballement sociétal. Dans cette société qui est en train de perdre le sens de l'homme, pour reprendre un concept qui est proposé par un philosophe de l'école de Francfort. L'école de Francfort, ce sont ces philosophes qui ont développé ce qu'on appelle la théorie critique de la société. Donc vous avez eu Adorno, Habermas, et donc vous avez une nouvelle génération des philosophes de l'école de Francfort, qui sont il y a un philosophe qui est critique du phénomène de l'accélération. Donc il a écrit un texte, Accélération et aliénation, il s'appelle Armut Rosa, et lui, il parle des pratiques de décélération volontaire. Des pratiques de décélération volontaire. À la marche, c'est une pratique de décélération volontaire. On descend de la machine. Voilà.